continuer. On va continuer à discuter de la question démocratique et on va se diriger petit à petit vers la question des solutions, des innovations, de ce qu'on peut imaginer pour changer les choses, même si ça a déjà été évoqué et j'en suis très content. Mais avant ça, je voudrais qu'on accueille une personnalité sur ce plateau, un spécialiste, un chercheur spécialiste historiquement de la question du djihadisme, très connu pour ces questions-là, mais qui depuis peu a décidé de s'intéresser à un autre sujet, encore que la question de la démocratie. Un tonnerre d'applaudissements pour Hugo Micheron. Bonsoir Hugo Micheron, merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonsoir Jean.
Bonsoir. Hugo Micheron, je le disais, un parcours intéressant, chercheur connu pour vos travaux sur le djihadisme. Mais là, vous travaillez, je crois que vous lancez une chaire à Sciences Po, ouais, sur démocratie et désinformation. Racontez-nous.
Oui, alors déjà, je vais essayer, pour une première sur Twitch pour moi, le double exploit de ne pas plomber l'ambiance en parlant de djihadisme et de ne pas ennuyer tout le monde en parlant de recherche. Donc un sujet malgré tout extrêmement grave, notamment pour la ville de Paris, qui est ici représentée par Madame la maire. Le djihadisme, c'est pour moi, c'était d'abord une question. Et c'est ça que je veux évoquer en parlant aussi du travail de chercheurs et peut-être de l'utilité des chercheurs, de l'utilité sociale des chercheurs dans une société. En fait, à quoi sert-on à produire de la connaissance éventuellement à éclairer autant qu'on peut humblement les débats. Et donc moi, le point de départ cette question est en fait assez surprenant parce que je vais vous le dire, j'aime à peu près tout. Tout m'intéresse sauf le djihadisme. C'est-à-dire que ça fait 10 ans que je travaille sur ce sujet et pourtant je m'intéressais abondamment à la question syrienne pour y avoir vécu, pour avoir eu la chance d'y apprendre l'arabe avant la guerre, mais la question djihadiste en tant que telle m'intéressait fort peu, mais malgré tout par des hasards de terrain que je menais à l'époque dans un certain nombre de quartiers populaires en France, je suis tombé sur des individus qui m'évoquaient, quand je parlais de la Syrie, qui m'évoquaient le fait que, tiens, un voisin de palier est en train de partir pour combattre en Syrie.
D'accord.
C'était des éléments comme ça, vraiment très éparses. On était en 2013, donc avant les attentats de Paris, 2 ans avant, le sujet n'était pas vraiment débattu dans le débat public. Il était parfois évoqué en toile de fond, mais ce n'était pas une préoccupation. Quand arrive donc ce sujet, je me suis posé la question, tiens, c'est étonnant, dans différents territoires, les gens parlent de la même chose alors qu'ils ne se connaissent pas, qu'on parle de lieux très différents, tantôt Roubaix, tantôt Marseille, tantôt Nice. Et c'est comme ça que j'ai décidé donc, de lancer des recherches sur ce sujet à partir du terrain. Et ce travail m'a amené à écrire des livres. J'en ai travaillé pendant 10 ans sur ce sujet. En fait, progressivement, je me suis dit que la recherche, c'était des questions très simples. Le djihadisme, d'où est-ce que ça vient ? On est tous d'accord, c'est une évidence que ça ne tombe pas du ciel, ça ne pousse pas dans les forêts.
C'est vrai.
C'est bête de dire ça, mais un truc très clair, ça veut dire qu'il y a bien eu quelque part, à un moment donné, un individu qui était le premier djihadiste, qui était le premier individu qui avait cette idéologie et qui, à un moment donné, a pu agir en tant que djihadiste en se proclamant comme tel. Et donc, ce point, c'est très important, c'est donc qu'il y a une histoire du djihadisme. Et s'il y a une histoire du djihadisme, il y a probablement une géographie. Et c'est comme ça que j'ai essayé de travailler à l'échelle de l'Europe entière pour expliquer ce phénomène. Et très rapidement, il m'est arrivé deux éléments qui sont au cœur de mes recherches. Le premier élément, c'est que quand on parle de djihadisme, en fait, on pense attentat. Et c'est une erreur. Parce qu'il y existe un djihadisme en dehors des attentats. Les attentats, c'est la conséquence du djihadisme. La deuxième erreur qu'on tend à faire, c'est qu'on limite le djihadisme à des organisations. Et pourquoi je vous dis tout ça ? Parce que si on accepte cette idée qu'il y a un djihadisme en dehors des attentats, que les attentats, c'est qu'un moyen qu'ils utilisent, c'est la conséquence du djihadisme, c'est pas sa raison d'être, alors on comprend qu'il y a des périodes où les djihadistes ne frappent pas, et pourtant, il peut y avoir des djihadistes. Donc, ça nous amène immédiatement sur la question politique.
Ben oui.
Et mon travail sur les 10 dernières années a consisté à produire une histoire du djihadisme européen pour essayer de comprendre comment ce phénomène pouvait toucher la France, le Danemark, la Belgique, la Grande-Bretagne, des pays qui, a priori, sont à la fois très différents et qui ont en commun d'être des démocraties européennes.
Et c'est là que vous en arrivez, du coup, à la question démocratique.
C'est ça. D'accord, c'est-à-dire qu'en fait, le djihadisme, quand on regarde ce que l'idéologie djihadiste, donc tout ce qui est le djihadisme en dehors des attentats, vise, c'est en faire les principes constitutifs des démocraties européennes, les valeurs fondamentales des démocraties européennes. La liberté d'expression, la liberté de conscience, l'égalité de tous devant la loi, l'égalité entre les genres, la liberté de mœurs. On le voit bien dans ce qu'ils ont essayé de frapper, les symboles qu'ils ont essayé de frapper dans cette ville de Paris, ce sont des symboles qui représentent ces valeurs démocratiques. Et nous, on perd un peu le Nord quand on ne voit pas que la question djihadiste, c'est avant tout une question politique, avant même d'être sécuritaire. Et donc, ce qui m'amène à évoluer dans mon travail, c'est qu'en fait, à travers, vous voyez, un biais qui paraît très précis, très spécifique, qui est le djihadisme, en fait, j'ai touché à un sujet auquel je ne m'attendais pas, qui est la question démocratique et la question des grandes valeurs politiques. Et la question que je pose à vos, évidemment, spectateurs sur Twitch et dans la salle, c'est aujourd'hui, comment est-ce qu'on vitalise ces valeurs de la démocratie? On les prend pour données. Or, c'est précisément ce que des ennemis comme les djihadistes qui se présentent comme des ennemis des démocraties visent. Ils visent tous les principes. Mais on peut élargir. Si vous regardez la question ukrainienne, la Russie, qui est aussi est un peu comme le djihadisme sur un point, c'est qu'elle a menacé l'Europe et les démocraties européennes pendant 30 ans. Et on ne les a pas pris au sérieux. Et il a fallu qu'ils envahissent l'Ukraine pour que tout d'un coup, on prenne conscience de cette menace. Donc la question, on le voit un peu comme les djihadistes ont pu le faire. Donc la question, si vous voulez, de la démocratie, ces valeurs qui nous semblent évidentes, sont en réalité ce qui est visé et perçu comme extrêmement fort à l'extérieur, mais dont nous, on peine, et les discussions là en ont donné un certain nombre d'indications qu'on peine, nous, à faire vivre au quotidien, qu'on peine à incarner.
Mais du coup, je retourne la question, oui.
Et donc, la question qui m'amène progressivement vers tout ça, c'est qu'il y a, d'une part, la question de la revitalisation de ces valeurs. Ça, c'est une question démocratique, je pense, qui est posée à tout le monde. D'autre part, d'avoir conscience que ces valeurs, c'est pas parce qu'elles sont là qu'elles sont toujours là. Mmh. Les démocraties ont connu des périodes de très grandes crises. On a vu qu'elles étaient capables de prendre un certain nombre de décisions dans des catastrophes historiques. La question, c'est de voir aussi que le débat public a considérablement évolué. Mmh. Et ça, c'est notamment le fait des réseaux sociaux qui nous permettent d'échanger avec des centaines de milliers de personnes en live aujourd'hui, mais qui sont aussi des instruments de désinformation. Et qui sont aussi des instruments qui participent à la polarisation de la vie politique. Ça, c'est quelque chose dont on n'a pas encore parlé, mais qui me semble extrêmement important. C'est comment est-ce qu'on arrive, en fait, à ne plus être capable de débattre, à ne plus être capable d'être en désaccord. Parce que la démocratie, c'est ce qui produit du commun, c'est ce qui arrive à amener, si vous voulez, les extrêmes, les oppositions vers une solution minimale. La dynamique sur les réseaux sociaux, c'est plutôt l'inverse. Et là où j'en viens, c'est donc qu'il y a une période particulière qui est cette révolution technologique qu'on vit. Mmh. Aujourd'hui, le premier espace de socialisation des 15-25 ans, c'est plus les médias. Mmh. C'est pas Sciences Po où j'enseigne, c'est pas dans la rue. Mmh. C'est sur les réseaux sociaux. C'est sur vos émissions qu'ils se politisent, qu'ils réfléchissent, qu'ils échangent des idées et parfois sur des émissions bien moins recommandables. Ce que je veux dire par là, c'est que ça transforme la démocratie. Il y a des forces qui s'en prennent à la démocratie qui vont mobiliser des gens sur les réseaux sociaux. Si on ne prend pas ça en compte, je pense qu'on rate ce qui est le grand enjeu de la décennie 2020, c'est-à-dire cette espèce de bataille des valeurs qui s'engage contre les démocraties et qui prend notamment forme sur les réseaux sociaux en visant en premier lieu la jeunesse. Et donc c'est comme ça, vous voyez, en partant d'un sujet a priori très lointain, que j'en arrive à Sciences Po à participer donc au lancement de cette chaire sur les affaires internationales, démocratie, révolution technologique et donc toutes les questions liées à la polarisation et aux nouvelles menaces qu'on peine à voir. Mais j'espère que parmi les gens dans la salle et parmi vos spectateurs sur Twitch, il y a un certain nombre qui se sentent concernés. Et moi, je serais extrêmement ravi de recevoir par ailleurs des idées, puisque quand on lance une chaire, on est toujours preneur d'initiatives. Et après tout, c'est aussi ça la démocratie, c'est-à-dire pouvoir bénéficier des idées de tout le monde et de les faire vivre.
Et bien, j'espère que votre appel sera entendu. Hugo Micheron, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, Hugo Micheron. Extraordinaire. Absolument passionnant. Et on a hâte de suivre les travaux de cette chaire à Sciences Po, mesdames et messieurs.